Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver dans votre émission Bien fait pour vous. Nous sommes en direct à vos côtés jusqu'à midi. Et ce matin, on vous propose une plongée dans le monde onirique. Et surtout, on vous pose cette question. Est-ce que vous vous rappelez toujours de vos rêves, Mélanie ?
Moi, ça dépend vraiment des périodes. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Je suis sûre qu'il y a une explication. On en parlera, qu'il s'agisse de doux rêves ou de sombres cauchemars. On verra ce matin que ce que l'on vit pendant que l'on dort en dit souvent long sur nous. Que veut nous dire notre inconscient quand nous dormons et si nous donner le pouvoir de transformer notre réalité, nos rêves. Nous répondrons à toutes ces questions avec Perrine Ruby, chercheuse en neurosciences cognitives au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, ainsi que Florence Lautredoux, normalienne, psychanalyste et coach en entreprise.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec nos chroniqueurs. Et aujourd'hui, on va commencer avec Philippine Darblay. Elle a prévu ce matin de nous parler de la mode des fleurs séchées. On en trouve un peu partout. Eh bien, elle nous guidera pour justement bien les manier et ainsi en embellir nos intérieurs. Et puis on terminera l'émission avec la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Lui, aujourd'hui, il va mettre les fruits de saison à l'honneur, mais dans nos cosmétiques. Abricots, pêches, cerises, apparemment, ils regorgent de bienfaits pour notre peau et nos cheveux.
Vous écoutez, bien fait pour vous sur Europe 1, très heureuse de vous accompagner jusqu'à midi. Notre question aujourd'hui, je vous la rappelle, est-ce que vous vous souvenez toujours de vos rêves ? Alors justement, lui, il nous fait rêver tous les matins avec son introduction à notre thème du jour, souvent féerique, parfois carrément loufoque. C'est à vous Clément Lanoux, bonjour.
Bonjour tout le monde, un sujet que j'adore aujourd'hui, effectivement. On va parler d'un des deux plus beaux verbes de la langue française avec « aimer ». Dans un monde parfois injuste où certains sont privés de liberté, la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est de rêver. Alors le rêve, c'est quoi ? C'est le gardien du sommeil, c'est un voyage qui tient le dormeur endormi, mais c'est surtout la voie royale vers l'inconscient. Oui, j'ai bossé. Non, stop. J'ai aucun mérite, ma chérie psychanalyste. Elle m'a dit, ne te loupe pas sur le rêve, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé, oui, elle est psychanalyste, donc en fait, un humoriste et une psychanalyste, on est un peu Omar et Freud. C'est de l'humour de psy apparemment, j'ai appris ça hier directement. Du coup j'ai dit, tiens, on va l'écrire à quatre mains, enfin à deux mains, parce que souvent on écrit que par une main par personne. Donc j'ai pris ses rêves, j'ai pris les miennes, j'ai essayé de mélanger. Donc comme le disait, je sais plus si c'est Freud ou Diams, dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend belle. Mon mec a du respect pour ses... Ouais, c'était Diams. Ok, comme le disait Lacan, j'irai au bout de mes rêves. Bref, j'ai tout mélangé. Donc je me suis tourné vers des spécialistes, évidemment, les enfants. Et plus simplement, je leur ai demandé aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves globalement et c'était quoi le dernier ?
Alors mon dernier rêve, c'était j'étais dans la NASA sur une fusée. Et la fusée, elle a explosé. Je suis arrivée dans une espèce de cathédrale. Et dans la cathédrale, il y avait des grosses bulles de chewing-gum. Et moi, je m'amusais à sauter dessus et je volais.
Est-ce que tu te rappelles d'un de tes rêves ?
Je suis tombée dans un trou et j'ai vu une maison toute en glace. Et les draps étaient en glace, mais ils étaient chauds. L'eau, elle était chaude, elle était en glace et je pouvais faire ce que je veux. J'étais dans l'école et après, j'atterris dans un petit monde et je nage dans la barbe à papa. C'est un peu collant, mais après, ça va.
Je laisserai
Qu'est-ce
ou non.
Qu'est-ce qu'on consomme déjà à cet âge-là ?
Je ne sais pas. On est tout simplement heureux. C'est vrai que c'est pas mal. Donc je laisserai aux soins de nos invités ou pas d'interpréter ce rêve. En tout cas, récurrent, éveillé, prémonitoire ou juste bizarre, le rêve est un tournage avec budget illimité. C'est le seul moyen, par exemple, de faire du cheval nu sur une plage mexicaine avec Angela Merkel. Il n'y a que moi qui l'ai fait, celui-là ? Je me livre beaucoup trop dans cette émission. Alors, pas de panique, ça veut peut-être juste dire que je veux un rapprochement entre la France et l'Allemagne.
Oui.
C'est peut-être juste politique, on ne sait pas. En tout cas, le rêve, c'est un travail en cours. Quand on y est ouvert, c'est une chance de saisir des vérités qui parfois sont dures à affronter. Oui, c'est ma chérie qui a créé cette partie de la chronique. Voilà, moi je me suis juste restreint, tout simplement, dans le mot réveil, il y a rêve. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on déteste autant le réveil, tout simplement parce que c'est lui qui nous tire de ce pays des merveilles.
Merci Clément et Caroline, alors.
Merci
chérie. On va à présent se glisser dans les bras de Morphée plus sérieusement avec nos expertes. Et en studio aujourd'hui, il y a déjà vous, Perrine Ruby, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en neurosciences cognitives au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et vous êtes aussi l'auteur du livre « Rêver pendant le confinement » aux éditions EDP Sciences. À vos côtés aujourd'hui, il y a Florence Lautredoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes normalienne, psychanalyste et coach en entreprise, auteur du livre « La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves » aux éditions Odile Jacob. Alors Perrine, je commence avec vous. On associe parfois les rêves à l'ésotérisme, au domaine de l'intangible, mais vous êtes chercheuse en neurosciences, donc c'est du concret, a priori. On peut les étudier de manière très scientifique, ces rêves, vraiment ?
Oui, complètement. La méthode scientifique s'applique à tout du moment qu'on a un objet. Le problème avec le rêve, c'est que l'objet est un petit peu difficile à trouver, un peu insaisissable. Du coup, on est obligé de travailler avec ce qu'on a, c'est-à-dire les souvenirs de rêve, et pas avec l'expérience vécue. Donc ça, c'est un peu frustrant. Mais par contre, on peut tout à fait faire un travail scientifique avec les rapports de rêve.
Perrine Ruby, vous avez mené une enquête sur les rêves des Françaises et des Français pendant le confinement en 2020. On verra peut-être les résultats après. Mais comment s'est passée cette étude? C'était via des questionnaires. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Oui, en fait, quand le 17 mars, le pays s'est retrouvé dans cette situation complètement extrême, inédite et improbable, évidemment, j'ai tout de suite eu envie de savoir comment l'âme endormie allait réagir à tout ça, ce que le rêve allait filtrer de la situation, comment il nous permettrait de comprendre ce qui se passait en vérité. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de recueillir le plus de rêves de Françaises et de Français possible dans les quatre coins de la France. Donc, on a mis en place un questionnaire en ligne qui a été diffusé par tous les médias nationaux et régionaux, enfin beaucoup. Et on a eu la chance, grâce à ça, d'avoir énormément de réponses, plus de quasiment 8000 en tout et quasiment 3000 pendant le premier confinement.
Et matière à analyse, donc. Voilà. Florence Lautredoux, est-ce que vous êtes toujours intéressée aux rêves par votre métier de psychanalyste, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu peut-être plus tard dans votre pratique? Comment votre intérêt s'est posé sur ce sujet-là précisément?
Parce que j'adore l'imaginaire, j'aime les romans, j'en ai écrit plusieurs, et d'ailleurs c'est un roman celui-ci, et je trouve que les rêves sont une surface d'expression un peu comme vous le disiez, enfin infinie, donc j'ai toujours eu un intérêt pour cela. En tant que psy, forcément, on analyse les rêves, mais je crois que c'est plus récemment, quand je me suis intéressée il y a quelques années aux approches chamaniques, que j'ai compris qu'on pouvait aussi dialoguer avec ses rêves. Pas simplement les recevoir et être parfois perplexe, amusé, mais on pouvait les considérer plus sérieusement et établir un dialogue avec eux. Poser des questions, avoir des aventures avec ses rêves.
Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que peut-être que jusqu'à présent, nous n'étions pas assez attentifs à nos rêves et qu'il faut peut-être se poser un peu plus dessus.
C'est plutôt se poser des questions et ne pas hésiter de se dire, il y a un autre monde, il y a un monde nocturne où nous sommes révélés, sans doute des messages de notre inconscient, d'autres instances, mais on peut aussi solliciter ce monde-là par notre attitude dans la vie diurne. En gros, établir une passerelle entre le monde diurne et le monde nocturne, favoriser ses rêves, honorer ses rêves, poser des actes dans la réalité qui peuvent être des réponses à ses rêves. Et là, c'est vrai que ça a activé mon rapport aux rêves il y a quelques années, quand j'ai découvert cette approche qui n'est pas la mienne, qui est celle de Robert Moss notamment, qui est un chaman, enfin qui est un universitaire américain qui a beaucoup travaillé sur les rêves et le dialogue avec les rêves.
Et vous, Perrine, en tant que scientifique, comment est venu justement cet intérêt pour les rêves? Alors vous êtes un être humain qui rêvait aussi comme tout le monde, au-delà d'être une scientifique, mais l'intérêt scientifique sur ce sujet, il est apparu de quelle façon?
On ressent intuitivement un territoire extrêmement mystérieux, inconnu et en même temps avec un potentiel énorme. En fait, on passe un temps très important à dormir et à rêver. Ça a une importance émotionnelle énorme. Chacun qui peut se souvenir de ses rêves le sait. Et du coup, on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas quelque chose à comprendre, un avantage adaptatif à cette affaire-là. Et du coup, même si c'est difficile à étudier, on a vraiment envie d'étudier ça parce qu'on se dit que c'est là qu'il y a quelque chose à trouver.
Clément ?
Mais est-ce qu'un jour, on va trouver quelque chose selon vous ? De plus, parce que j'ai l'impression qu'on cherche parce qu'on veut se donner des réponses, mais il n'y a peut-être finalement rien à trouver, aucune explication scientifique.
La science, elle observe. Donc, si elle arrive à observer son objet, elle tirera forcément des conclusions, elle permettra de mieux comprendre le phénomène, ça obligatoirement. Après, on a peut-être besoin de sauts méthodologiques pour réussir à avoir accès à l'expérience du rêve et pas que à son souvenir. Mais là, on a déjà compris beaucoup de choses. Notamment, il y a vraiment une hypothèse dominante actuellement qui propose que le sommeil et le rêve jouent un rôle dans la régulation émotionnelle.
Complètement. Donc, ça ne sert pas à rien de rêver, hein, Mélanie. Heureusement, et on va détailler ça encore dans un instant. Merci à toutes les deux, vous restez avec nous. À suivre, on va continuer à décrypter les secrets de nos rêves. D'ailleurs, est-ce toujours notre inconscient qui s'exprime lors de notre vie nocturne? Quel enseignement peut-on peut-être tirer d'un rêve ou même d'un cauchemar récurrent? On va tout vous expliquer. En attendant, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre tous les matins sur Europe 1. Alors, est-ce que vous vous rappelez de vos rêves? Moi, très très peu, mais n'hésitez pas à partager les vôtres avec nous parce que ça nous intéresse et pour nous éclairer sur tout cela. Elles sont toujours avec nous en studio. Perrine Ruby, chercheuse en neurosciences cognitives au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et puis Florence Lautredoux, psychanalyste et coach en entreprise. Alors, Perrine, pour commencer, de quoi sont composés nos rêves? Alors, est-ce qu'on le sait en détail ou pas? Est-ce que ce sont par exemple des bribes de souvenirs?
Oui, oui, tout à fait. Alors ça fait partie des choses qui ont été très étudiées et qui sont bien comprises. Tout le monde s'accorde sur cette affaire-là. On rêve de ce qu'on vit, de ce qu'on est, donc de ce qu'on a ressenti, ce qu'on a pensé dans la journée. Ça revient dans nos rêves. Et ce qui est intéressant, c'est que ça revient de manière pas littérale. C'est des morceaux de souvenirs qui sont récupérés par le rêve, qui mélangent des morceaux de plusieurs souvenirs et du coup qui permet de changer la perspective, de changer le contexte, de nous offrir une nouvelle lecture. Mmh. C'est ça l'intérêt du rêve. Quand le rêve est cassé et qui reproduit le souvenir, là ça marche plus bien, la régulation émotionnelle fonctionne moins bien.
Perrine, on a une question de Solène sur Twitter qui nous dit: en classe de 3e, ma prof de français m'a dit qu'on rêvait 3 fois par nuit, sinon on avait des problèmes psychologiques. Est-ce que c'est vrai?
Alors, le rêver et se souvenir de ses rêves, c'est deux choses différentes. Mmh. Est-ce qu'on rêve toute la nuit? C'est possible, mais ça, c'est très difficile à savoir.
Mais trois fois, c'est fondé sur rien, 3 fois par nuit. On rêve trois fois par nuit.
Non, en fait, on peut rêver dans tous les stades de sommeil au cours de toute la nuit. On sait qu'on s'en souvient plus plutôt sur la fin de la nuit. Mais du coup, qu'on s'en souvienne ou pas, si le rêve a une fonction, elle s'applique de toutes les manières. Donc le souvenir du rêve, c'est surtout intéressant si on a envie, si on s'intéresse à la question du rêve.
Mais juste pour répondre à ce qu'elle dit, elle n'a pas de problème psychologique si elle ne se souvient jamais de ses rêves, comme Julia d'ailleurs qui s'en rappelle très peu souvent.
C'est pas parce que j'ai des gros problèmes, Mélanie.
Il y a des études qui ont été faites, qui ont comparé les capacités cognitives des personnes qui se souvenaient souvent de leurs rêves et de celles qui s'en souvenaient rarement. Il n'y a pas de différence de mémoire, il n'y a pas de différence à faire de l'imagerie visuelle, il n'y a pas de différence dans la capacité à raconter une histoire. En fait, il y a juste des différences de traits de personnalité. C'est ça qui est intéressant.
Ah, ça m'intéresse, ça, alors.
Souvent de leurs rêves, ils ont tendance à être plus ouverts à l'expérience, plus créatifs. Et ceux qui s'en souviennent rarement, ils ont tendance à être plus alexithymiques. Du coup, c'est un trait de personnalité qui caractérise ceux qui ont du mal à comprendre, ressentir et parler de leurs émotions.
Oui, donc une psychopathe.
On a répondu du coup à Valérie de 3921 qui nous demandait pourquoi on ne rêvait pas. Enfin, certains rêvaient pas.
Florence Lautredoux, est-ce qu'on peut dire que c'est l'inconscient qui parle quand on rêve ou c'est une idée reçue? Qu'est-ce qui nous travaille?
D'abord, l'objet du rêve, c'est très délicat, un rêve. Il y a un côté poétique, pas de coercition, on ne peut pas se forcer à se rappeler de ses rêves. C'est quelque chose qui vient. Alors, effectivement, il peut y avoir des composantes d'inconscient, c'est-à-dire des aspects de notre vie ou de notre psyché qui révèlent des émotions profondes. Et c'est vrai qu'il y a un côté exutoire émotionnel dans les rêves très important. Et parfois, ça c'est Jung qui le disait, ou d'autres personnes bien sûr, les chamans, les bouddhistes, il peut y avoir aussi des éléments de notre âme qui nous parlent, des choses plus intangibles. C'est pour ça aussi qu'il y a souvent un plafond de verre avec la science, parce qu'il y a un aspect magique dans le rêve. Donc il n'y a pas que l'inconscient.
Mmh. Florence, est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent davantage de leurs rêves que d'autres? Enfin, je veux dire, en termes de profil, est-ce que les enfants par rapport aux adultes, on a eu des exemples de rêves d'enfants incroyables et très détaillés tout à l'heure chez Clément Lanoux. Est-ce qu'il y a une différence entre les bons dormeurs, les mauvais dormeurs? Il y a un profil plus avantagé que d'autres?
Il y a des profils qui, clairement, il y a une ouverture émotionnelle qui est importante.
Les enfants, ça paraît incroyable, les souvenirs détaillés.
Ils sont très spontanés, il n'y a pas de filtre. Ils n'ont pas intégré encore les diktats du cerveau limbique, de l'éducation, de la vie en société. Ils n'ont pas refoulé certaines émotions, enfin en tout cas certains d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, donc c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus vrai. Mmh. Après, il y a plein de choses qui font qu'on ne se rappelle pas ses rêves. D'abord, il peut y avoir des filtres du mental ou de l'ego qui ne veut absolument pas changement dans la vie, et comme les rêves, c'est l'inconscient qui nous parle ou des guidances autres, si on ne veut pas entendre ces messages qui peuvent amener des changements dans nos vies réelles, on bloque. Mmh.
Et c'est le cas d'un des personnages de votre livre, hein, d'ailleurs, qui ne se
souvient
rappelle
pas
jamais
de ses rêves.
Elle veut pas bouger, elle veut pas avancer parce qu'elle a peur. Elle a peur de l'inconnu. Et puis, tout changement, forcément, emmène une destruction de l'ancien pour un avenir qu'on ne connaît pas.
Et Florence, ça n'a rien à voir avec la dose de sommeil. Moi, j'ai l'impression que je rêve plus quand je suis en vacances.
Oui, parce que vous êtes plus détendu, il y a moins de tension. Puis, il n'y a pas ce côté. Enfin, moi, je parle avec une scientifique à côté de moi, mais c'est vrai que sinon, il y a un côté, ce que j'appelle industrial sleep, quoi. C'est réparation des boulons, on remet tout en place. Enfin, le corps a juste qu'il faut à peu près pour se remettre. Donc, il n'y a pas cette espèce de moelleux souple qui permet le rêve.
Perrine Ruby, est-ce qu'il y a une manière d'optimiser ça? Parce qu'on a tous, en vrai, envie de se rappeler de nos rêves. Est-ce qu'il y a un moyen, je ne sais pas, scientifique, une astuce qui permettrait de se souvenir de nos rêves, ou est-ce que c'est aléatoire, finalement?
Alors, en moyenne, quand on étudie les souvenirs de rêves sur des échantillons représentatifs de la population, ça a été fait par un collègue en Allemagne, en moyenne, c'est un souvenir de rêve par semaine. Donc, c'est quand même assez commun. Il y a plutôt plus de gens qui se souviennent de leurs rêves assez régulièrement que des gens qui s'en souviennent très rarement. Donc, en fait, le souvenir de rêve, si on veut augmenter sa fréquence, c'est très facile. Il suffit de faire un carnet de rêve et de s'intéresser à la question du rêve. C'est vraiment le mécanisme qui marche le mieux. Il y a plusieurs paramètres qui influencent le souvenir du rêve, mais ça marche de manière fulgurante.
Mais c'est quoi un carnet de rêve?
Alors qu'on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. En fait, un carnet de rêve, c'est simplement mettre un cahier à côté de votre lit. Quand vous réveillez le matin, vous notez ce dont vous avez rêvé. Si vous vous êtes souvenu de rien, vous notez dans votre carnet,
rien.
Je me suis souvenu de rien. Et au bout d'une semaine ou deux, vous allez vous souvenir le matin de votre rêve.
Ça fonctionne. Vous confirmez,
ouais. Ah oui, je confirme, ça s'appelle l'attention. En fait, quand je parlais d'établir un dialogue entre nos rêves et notre réalité, bien sûr, la première chose, c'est de s'intéresser quand on aime quelqu'un. C'est très beau ce qu'il disait, l'amour et les rêves. Si on aime ses rêves, on s'intéresse à eux, quand bien même ils sont fugaces, on ne s'en souvient pas, cette intention, cette attention va favoriser l'émergence, enfin le souvenir des rêves.
Et Florence, vous conseillez de tout de suite écrire le rêve, dès qu'on se réveille?
Oui, dès qu'on se réveille, tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, mettre un stylo qui marche. Souvent, les gens, le piège, mettre des stylos qui ne marchent pas à côté de leur lit, c'est intéressant. On met un stylo qui fonctionne, un carnet, et tout de suite l'écrire. Pas forcément commencer à parler aux personnes qui peuvent, enfin à la personne.
Tant qu'il est frais, quoi. En fait.
Voilà, frais, on écrit tout de suite.
Perrine Ruby, est-ce qu'on peut vraiment se fier à nos rêves parce qu'ils sont intangibles? On l'a dit tout à l'heure, on a souvent en plus juste des bribes, des souvenirs qui d'ailleurs peuvent être un peu faussés. Des fois, je me dis, ah, j'ai vu cette personne dans mon rêve, mais non, est-ce que c'était pas un tel? Plutôt raconter un rêve, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très subjectif finalement.
Oui, c'est ce qui le rend intéressant. Alors effectivement, il y a une incertitude sur est-ce que le souvenir de rêve est exactement l'expérience qu'on a eue du rêve. Mais pour autant, et du coup, on ne sait pas bien éventuellement l'effacement ou les distorsions que la conscience éveillée a appliquées à l'expérience du rêve. Mais il n'en reste pas moins que ce dont on se souvient, c'est ça. Et c'est très intéressant d'étudier ce dont on se souvient. Et donc, ce que nous-mêmes, nous laissons voir de l'expérience rêvée. Et j'ai envie de citer Bourdieu qui commentait des tableaux et qui disait, quand on regarde un tableau, c'est vraiment très important d'avoir en tête que c'est ça qui est représenté et pas autre chose. Ça aurait pu être autre chose, et c'est ça qu'on nous montre. Avec le rêve, il faut avoir ça en tête.
Donc ce
et
qui compte, c'est ce qu'on ressent, en fait, face au rêve.
Complètement, et puis surtout, certaines fois, les impressions de flou et d'incertitude, ça fait partie du message, et ça permet de formuler des choses qu'on n'aurait pas pu formuler si l'image avait été claire.
Ça vous est jamais arrivé, Julia, de vous réveiller d'un cauchemar, et sans vous rappeler les détails, mais on se réveille très angoissé.
Juste avec l'impression.
Mais je me suis réveillée des fois très en colère contre mon mari, parce que j'avais rêvé qu'il me trompait. Mais vraiment, cette colère, elle est là, et elle existe au réveil même. C'est incroyable, cette... Ça, c'est concret pourtant, Perrine.
Alors, le rêve, c'est la vérité. C'est
ça
vraiment...
veut dire qu'il m'a trompé?
Oui,
non,
bien
c'est
sûr.
Pas ça.
Le rêve, c'est la vérité émotionnelle. Je pense c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je pense que c'était très important d'écouter le ressenti émotionnel des Françaises et des Français pendant cette crise sanitaire, pendant qu'ils étaient enfermés chez eux. Et le résultat est franchement décoiffant. Ça fait froid dans le dos. Et quand vous réveillez angoissé, en colère contre votre mari, vous avez vécu cette tromperie, vous avez vécu cette émotion. C'est Dubuis qui disait que la trace laissée par un rêve n'est pas moins réelle que celle laissée par un pas dans la neige. On l'a vécu, c'est une réalité.
Mais alors quoi, Florence, en quoi ça a été bénéfique, par exemple, ce cauchemar de Mélanie?
Ça lui a permis de sortir une peur, peut-être une tension, ou de certains éléments qu'elle avait peut-être perçus et qui, quelque part, lui ont permis de... Voilà.
Mais qui ne sont pas forcément liés à son mari? Ça peut être une colère générale ou...
C'est souvent... non, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler effectivement dans la journée précédente ce qui aurait pu générer, parce que les rêves nous permettent de nous nettoyer, enfin il y a un nettoyage de la psyché. Donc qu'est-ce qui, dans la journée qui a précédé ce rêve, a favorisé l'émergence de ce rêve? Mais de toute façon, c'est un exutoire. Ça permet de sortir des choses. Quand bien même on se réveille, on est tendu, angoissé, au moins les émotions se sont exprimées. Il vaut mieux qu'elles se soient exprimées.
Et après, ça passe. Hein. Tout va bien dans mon couple, je rassure tout le monde.
Eh bien, Bien fait pour vous se poursuit dans quelques minutes. On va entrer un peu plus dans la signification de nos rêves à présent. Un sujet qui fascine les gens. On a tous envie de savoir ce que signifie ce songe dans lequel on a trompé son conjoint, parce que parfois c'est l'inverse, ou on a perdu ses enfants dans une fête foraine. Pour en savoir plus, je vous le conseille vivement. Restez bien éveillés, surtout avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève.
On fait comme Jean-Jacques Goldman ce matin, on va au bout de nos rêves dans Bien fait pour vous sur Europe 1. On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez. Notre question du jour, la voici, est-ce que vous vous rappelez toujours de vos rêves? Et avez-vous une idée de ce qu'ils signifient peut-être? Si ce n'est pas le cas, on va vous aider à y voir plus clair avec Perrine Ruby, chercheuse en neurosciences cognitives au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et puis Florence Lautredoux, psychanalyste et coach en entreprise. Alors Florence, il existe des tas de dictionnaires des rêves, est-ce que, les motifs, les symboles qui peuplent nos rêves veulent vraiment dire la même chose pour tout le monde? Moi, ça me paraît curieux quand même.
Non, chacun est détenteur de la vérité de son rêve. Néanmoins, il y a des motifs ou des symboles qui sont universels.
Parce que c'est bidon, du coup, ces dictionnaires, alors?
Moi, je recommanderais les dictionnaires de symboles façon collection bouquin. Enfin, je ne suis pas en train de faire de la promo. Mais c'est des dictionnaires qui permettent de regarder la symbolique de tel ou tel motif. Un tigre, un océan.
Puisque vous parlez d'océan, on a justement une auditrice au 3921 qui a laissé une question en disant je rêve de façon récurrente que je suis submergée par des vagues, mais je m'en sors toujours. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça?
Alors, il faudrait contextualiser, bien évidemment. Mais c'est vrai que l'eau et les océans, enfin, c'est la mer, c'est les émotions en général. Et quand on est submergé par les émotions, enfin, il peut y avoir des lectures littérales.
Mais elle ne se noie pas, donc elle s'en sort toujours.
Exactement, mais il y a beaucoup d'émotions fortes. Donc, en gros, ce que je recommanderais, c'est de regarder la symbolique quand même, soit sur Internet si vous n'avez pas de dictionnaire, regardez ce que ça peut vouloir dire et en quoi ça peut s'appliquer. Parce que l'inconscient collectif circulant, vous pouvez avoir des symboles qui ne sont pas véritablement des panthères, enfin des animaux qu'on ne croise pas tous les jours. C'est intéressant de regarder et de faire le lien avec sa propre expérience, parce que chacun détient son référentiel qui lui permet d'interpréter.
Alors Perrine Ruby, dans votre étude sur les rêves des Françaises et des Français pendant le confinement, vous parlez de métaphores. C'est ça, à quoi ça sert les métaphores?
Oui, c'est spectaculaire. C'est ce qui m'a décidé à regrouper un gros échantillon de ces rêves dans un livre pour les rendre accessibles à tous et à toutes, à ceux qui nous les avaient confiés et puis à toutes les Françaises et tous les Français, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont fait des similaires. Et en fait, c'est ça qui est frappant quand on lit ces rêves, c'est la puissance des métaphores. Et du coup, le rêve utilise ce langage de la métaphore et il sait aller chercher les représentations commune. Il y a un niveau individuel, évidemment, il y a un niveau collectif dans la compréhension d'un rêve, dans la lecture d'un rêve. Et là, les images que les Françaises et les Français sont allés chercher pour faire sens, pour exprimer ce qu'ils ressentaient pendant le confinement, c'était fulgurant.
Alors justement, dans le détail de votre étude sur les rêves pendant le confinement, je crois que beaucoup de personnes rêvaient finalement de choses qui leur manquaient, comme sortir, avoir des contacts avec d'autres. Mmh. Ça s'explique comment la frustration était vraiment très présente dans nos rêves, en fait, c'est ça?
Il y avait évidemment le côté attendu, c'est que donc comme je l'ai dit précédemment, en fait on a tendance à rêver de ce qu'on vit. Donc évidemment on a rêvé de la crise sanitaire, de la crainte de perdre ses proches, de tomber malade, de l'invasion, de l'incertitude que cette pandémie faisait peser sur nos vies et celles de nos concitoyens. Mais il y avait aussi le fait d'être enfermé. Et ça a pris une place très, très importante, beaucoup plus importante que celle à laquelle on aurait pu s'attendre, avec une représentation de la coercition et du totalitarisme qui était extrêmement présent dans ses rêves. Et c'était tout à fait remarquable.
Donnez-nous quelques détails. Il y avait des gens qui rêvaient d'être emprisonnés, c'est ça? Des catastrophes naturelles, des invasions d'extraterrestres? Enfin, vous avez eu de tout, hein?
Oui, il y a eu tout ça. Du coup, ça, c'est un très bon exemple des métaphores qui peuvent être utilisées pour représenter le danger et la menace que représentait le virus. Mais il y a aussi des métaphores de comment était représentée la façon avec laquelle a été gérée la pandémie, cet enfermement et la crainte que ça suscitait. La crainte que ça suscitait, c'était effectivement des rêves de prison, de gens qui s'habituaient à vivre en prison, en disant « ok, c'est ma nouvelle façon de vivre ». des représentations de la police qui étaient systématiquement coercitives, systématiquement. Il y avait des rêves où on tirait sur les gens à vue quand ils n'avaient pas des...
C'était des cauchemars épouvantables. On avait peur de rester enfermés chez nous, c'est pour ça, en fait.
Il y avait à la fois... Donc cet enfermement, il était représenté comme pouvant nous protéger, mais c'était aussi ressenti comme une menace et une coercition énorme. Et du coup, la peur de qu'est-ce que ça va devenir, est-ce qu'on va nous... redonner notre liberté.
Alors justement, enfin heureusement, hein, parfois les rêves sont un peu plus agréables. Je parle des rêves érotiques notamment, qui arrivent assez haut dans le classement des rêves les plus fréquents.
Pendant le confinement.
Fait par les Français pendant le confinement. Qu'est-ce que ça signifie ? On a compensé ce qui nous manquait via les rêves à ce moment-là ? Je sais pas, parce que les gens ont beaucoup fait l'amour hein, pendant le confinement, je crois.
Ça dépend. Il y avait des couples séparés, il y a eu plusieurs situations.
Il y a eu les deux effets, mais ce qui était intéressant, c'est que du coup, on s'attendait au côté cathartique avec une expression, du coup, une augmentation de la fréquence des cauchemars, beaucoup d'émotions négatives, de craintes, de métaphores, de catastrophes, de choses terribles. Du coup, ça, c'était l'expression des émotions angoissantes qu'on vivait à la journée, qui était probablement bénéfique, ça permettait de les sortir. Et puis, il y avait un effet qu'on a découvert qui était compensatoire, qu'on n'avait pas... qui était très peu décrit dans la littérature, avec une apparition de rêves extrêmement positifs. Donc, effectivement, la réalisation de tous les désirs qui étaient frustrés à l'éveil, tout ce qu'on ne pouvait pas faire, mais aussi une intensité de rêves positifs très très remarquables, et puis effectivement beaucoup de rêves érotiques très positifs. Et du coup, là on se dit l'érotisme, il n'est pas directement en contradiction, il n'était pas directement empêché ni par la pandémie ni par l'enfermement. Et donc il y a vraiment une impression d'essai de récupérer la balance émotionnelle. Merci. Quand on a vécu trop d'émotions négatives la journée, alors compenser avec des émotions positives la nuit pour essayer de rétablir l'équilibre.
Oui, on confirme, rêver, ce n'est pas tromper. Florence, oui. Personne n'aime faire des cauchemars, hein, ceux qui nous réveillent par exemple comme ça subitement dans la nuit. Mais vous dites que ces cauchemars, ils sont souvent plus utiles que nos rêves pour nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors, plus utile, je ne sais pas, mais effectivement, ils nous avertissent de quelque chose dans notre psyché qui pèse. Donc, ces cauchemars peuvent nous permettre de prendre conscience que quelque chose ne va pas dans notre vie, peut-être y remédier. Moi, j'ai une vision très tonique, très dynamique du rêve. Ce n'est pas simplement un spectacle auquel on assiste passivement, mais c'est une incitation à bouger dans notre vie réelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit ce livre aussi, pour que les personnes renouent le contact et fassent des choses de leurs rêves. Donc, vivent les cauchemars, même s'ils
sont
parfois
très
pénibles.
Mais comment, par exemple, si je fais un cauchemar extrêmement pénible, j'ai pas d'idée en tête, mais comment je peux retourner ce cauchemar dans ma vraie vie, enfin dans ma vie diurne ?
Je sais pas, si je fais le rêve, par exemple, je travaille avec un collègue, je rêve que régulièrement je le croise et il me pousse dans un fossé, ou bien il me poursuit, et à un moment donné, est-ce que je n'aurais pas intérêt à aller me confronter à cette personne, ou trouver, me ressaisir et trouver une manière dans ma vie réelle de diminuer le danger ? En gros, Le cauchemar est une invitation à prendre conscience et à agir.
Est-ce que ça peut avoir un impact sur notre santé de faire trop de cauchemars ? Et si oui, est-ce qu'il faut aller consulter ?
Oui, parce que les personnes peuvent redouter d'aller se coucher. Très souvent, c'est pour ça qu'il y a des techniques comme l'imagery restoral therapy, enfin des techniques notamment au Canada, aux États-Unis, quand ce sont des cauchemars traumatisants, les gens réduisent leur temps de sommeil ou ont très peur de retrouver cela. Alors qu'en fait, on peut très bien, s'ils vont voir, s'ils viennent me voir, on va réaffronter ce rêve. Mais ensemble.
Florence, sur Twitter, on a Lucas qui nous a demandé, il dit que de 6 ans à 12 ans, il a fait un rêve récurrent, il était dans sa cour de récré, un pouce géant l'écrase. Qu'est-ce que ça peut dire pour un enfant, éventuellement, ce genre de rêve, de cauchemar?
Alors, c'est certain que Lucas est le seul maître de son rêve, puisque c'est son référentiel. Mais évidemment, il y a une espèce d'autorité ou quelque chose qui l'oppresse.
Dans la cour de récré,
dans la cour de récré, le pouce, stop, on arrête. À voir ce que pour lui représente le pouce, les comportements de son père, éventuellement. Enfin, voilà. Mais manifestement, il y a une force vitale qui est arrêtée avec un danger d'écrasement, oui, ça c'est certain.
Perrine, pour terminer, faire un cauchemar voire plus par semaine, est-ce que c'est quelque chose de pathologique ? Quel est votre avis scientifique sur l'aspect plutôt cauchemar de notre vie onirique ?
Il y a des collègues canadiens qui ont proposé un modèle neurocognitif du cauchemar dans lequel effectivement le sommeil et le rêve sont vus comme un moyen de régulation des émotions. Et dans ce modèle-là, en fait, quand la régulation nocturne se passe mal, quand elle échoue, ça donne un cauchemar. Donc un cauchemar, ça serait un signe de l'échec de la régulation. Du coup, c'est tout à fait normal de faire des cauchemars de temps en temps. Chez l'adulte, ils deviennent très rares. Et quand on en fait trop souvent, effectivement, il y a un seuil classiquement qui est considéré à partir d'un cauchemar par semaine. Mmh. Ça vaut le coup de se poser la question si ça fait longtemps, mmh. Ça vaut le coup d'essayer de diminuer consulter. La fréquence de ces cauchemars. Il y a des stratégies qui marchent très bien. Il y a Benjamin Putois dans notre équipe qui a écrit un livre pour se débarrasser de ces cauchemars. Donc la stratégie est très simple. Il faut visualiser le cauchemar, changer la fin de l'histoire pour qu'elle devienne positive, se rappeler cette histoire-là et ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas, si vous faites des cauchemars, Benjamin Putois.
Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet entretien et pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la mécanique de nos rêves, ce qu'ils disent de nous. Je rappelle vos ouvrages respectifs, Rêver pendant le confinement aux éditions EDP Sciences et puis l'ouvrage La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves aux éditions Odile Jacob.
Merci encore Mélanie. Maintenant on va passer à notre séquence tendance. Il est presque l'heure. Philippine Darblay va nous expliquer comment utiliser les merveilleux atouts des fleurs séchées pour sublimer nos intérieurs. Et puis Benjamin Lévesque nous dira, lui, ce que les fruits de saison, les fruits d'été comme l'abricot ou la cerise peuvent faire pour notre peau et nos cheveux. On va tout vous expliquer, alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous jusqu'à midi et en direct. On débute tout de suite notre partie consacrée aux tendances. Alors je me tourne vers vous Benjamin Il n'a qu'un bec, c'est Benjamin. Bonjour, vous avez, bonjour. Je crois, préparé une salade de fruits, non pas à déguster, mais à se tartiner sur le corps.
Bah oui, les fruits c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour la peau. Et donc je vous ai fait une petite sélection avec des produits pour cheveux ou pour la peau qui utilisent des fruits, mais des fruits de saison. Donc ça va sentir la pêche, ça va sentir la cerise, etc.
Eh bien merci Benjamin, vous préparez les abricots, les cerises et les pêches. On vous retrouve dans un instant, car pour le moment c'est au tour de Philippine Darblay. Bonjour Philippine.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui vous allez nous parler des stars de la déco, les fleurs séchées. Et apparemment on va même apprendre aujourd'hui à en faire des bouquets soi-même.
Bah ouais, mais c'est vrai que c'est la grande tendance depuis quelques années. Elle perdure et ça tombe à pic, on attaque la plus belle saison pour cueillir des fleurs fraîches. Et personnellement, je dois avouer que j'ai toujours eu envie d'apprendre à en faire des bouquets séchés, pas vous ?
Mais complètement, ouais. Je ne sais pas faire, je ne sais pas, à part les garder, mais ça ressemble
moi
à rien.
Moi non plus. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas, aujourd'hui on pourrait en parler. Et puis surtout, c'est une super activité qu'on peut faire en famille, entre amis. Je pense aux nombreuses activités d'enterrement de vie de jeune fille, etc. On peut même décorer des tables de mariage ou simplement ramener des petits souvenirs, quoi.
Alors déjà, Philippine, d'où vient cette tendance pour les fleurs séchées ?
Bah, y en a pas mal. C'est vrai que déjà, c'est esthétique, ça, c'est indéniable, hein, c'est beau, c'est vintage. C'est joli, il y a un esprit campagne, c'est très pratique. Moi, c'est peut-être pour ça que je les aime le plus. J'ai absolument pas la main verte, il n'y a rien à faire. Vous les posez.
Et ça reste comme beau. Ça, c'est beau.
Exactement. Et puis surtout, c'est écologique. Et ça, c'est Chiaki Kokami qui le rappelle, qui est une fleuriste qui travaille au sein de l'hôtel éco-responsable Oi à Paris.
Et c'est quelle fleur qui sèche bien ? Parce que moi, je laisse sécher mes trucs là à la maison.
Les trucs plus ou moins qui sèchent bien. Ouais,
il y en a, ils sèchent mal.
Bah en fait, les fleurs estivales, apparemment, quasiment toutes sèchent assez bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais histoire de vous projeter un peu dans vos coins de vacances, je vous propose de faire un petit tour avec notre experte Clémence Hérault, qui est directrice artistique de l'atelier végétal Bergamote.
En Vendée, par exemple, vous trouverez des aquilées jaunes. Leur jaune vif ne change pas en séchant. C'est très agréable et joyeux. En Provence, allez vous balader aux alentours des champs de lavande après la récolte. Vous trouverez certainement quelques brins oubliés par les horticulteurs aux abords des champs. À la montagne, vous trouverez plein de variétés de chardons qui sèchent très bien. En Bretagne, il y a bien sûr les hortensias, mais il faudra attendre la fin de l'été pour pouvoir les cueillir et les faire sécher, sinon ils ne sécheront pas. Et enfin, partout en France, peu importe où vous trouverez, il y aura toujours quelques graminées, des aires de la pampa ou des feuillages que vous pourrez toujours mettre à sécher.
Montrez concrètement, Philippine, quelles sont les règles pour couper de belles fleurs en pleine nature ?
Eh ben alors, il y en a quatre à respecter d'après Clémence. La première, c'est déjà, on y va tôt le matin quand elles sont belles et bien fraîches. Ensuite, on utilise toujours un sécateur ou un couteau. On n'arrache pas, surtout pas, c'est interdit. Généralement, on dit qu'on sélectionne une tige sur cinq et on évite évidemment les zones protégées et puis bon, d'aller piquer chez le voisin.
Hein. Oh, c'est vrai, c'est bien de le rappeler.
À moins que les voisins soient sympas. Hein.
Voilà, c'est ça, à moins qu'ils soient d'accord.
Et une fois qu'on a justement ces petites fleurs en main, comment on fait ensuite pour les sécher ?
Eh bien justement, il y en a un qui s'y connaît un brin, c'est Benjamin Perrault qui est cofondateur de Monsieur Marguerite, une enseigne responsable spécialisée dans les fleurs françaises et de saison.
Pour faire sécher ces fleurs, c'est finalement très simple, il vous suffit de les mettre la tête à l'envers dans un environnement assez chaud légèrement aéré, et puis avec le moins de lumière possible pour un séchage rapide et efficace. Et puis bien sûr, une fois séchés, pour les conserver, surtout éviter le contact direct avec les rayons du soleil qui vont faire ternir vos fleurs. Éviter les trop gros courants d'air, et puis pour les dépoussiérer, n'hésitez pas à utiliser un plumeau, mais attention, elles sont fragiles, ces petites fleurs séchées.
Vachement intéressant. Moi, j'étais persuadée de l'inverse. J'allais les mettre en plein soleil pour sécher. En fait, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire.
Il y a quelques trucs, mais en fait, ça permet de protéger la lumière, la couleur. Juste la couleur.
Okay. Et on les arrange comment, alors, ensuite, les fleurs séchées?
On peut en faire plein de choses. On peut les mettre dans des vases, dans des paniers, dans des en faire des couronnes même. Mais on voit aussi plein de nouveaux formats très sympas apparaître. Et on va écouter Lucille Vartel, une jeune fleuriste passionnée, nous parler un peu de tout ça.
Alors pour moi, quand on parle de la fleur séchée aujourd'hui, il y aurait trois grandes tendances qui se dégagent. La première, ce serait les décorations sous cloche, sous forme de composition plus ou moins colorée, plus ou moins grande, selon les goûts. Ensuite, pas mal de créateurs français intègrent aussi à leurs bougies aux senteurs naturelles la fleur séchée, donc la pétale, ce qui apporte un petit peu de couleur et donne un côté encore plus naturel à la création. Et sinon, tout simplement, à partir de vos fleurs du jardin ou même des fleurs que vous achetez chez votre fleuriste, des fleurs fraîches, vous pouvez les faire sécher et ensuite faire de petites compositions que vous pourrez déposer sur votre table pour donner un côté champêtre ou bien même le suspendre à votre mur.
Bah oui, hein, parce qu'il y a des tonnes de manières de s'en servir, mais vraiment, la star de la fleur séchée, ça reste le bouquet simple, un peu chiadé. Là, on en a plein en studio, c'est très beau, il y a des tonnes de couleurs.
Vous pouvez les voir sur europe1.fr ou sur notre compte Instagram.
Voilà,
bien sûr.
On a ceux des trois, Chiaki, Kokami, Bergamote avec deux T, et Monsieur Marguerite. D'ailleurs, pour information, grande nouveauté, Monsieur Marguerite sort la semaine prochaine un bouquet frais qui sera à faire sécher soi-même et qui est tout aussi beau dans ces deux versions. Parce que bon, pour moi, finalement, la conclusion de cette chronique, c'est de se dire que mieux choisir ses fleurs fraîches, c'est aussi les penser séchées.
Mais quelle bonne conclusion. Merci beaucoup, Philippine, pour toutes ces astuces. On en a fini avec les fleurs. On va passer aux fruits maintenant avec notre maraîcher de la beauté, Benjamin Lévesque. On dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour et de saison, peu préférence. À défaut de les manger, est-ce qu'on peut les appliquer sur la peau?
Oui, c'est possible. Mélanie et même l'industrie cosmétique surfent sur cette recommandation, puisque de plus en plus de marques sortent des produits avec des fruits de saison. Alors, à commencer par la marque qui, tous les trois mois, change toute sa gamme. Donc, c'est matière brute. Je vous en ai parlé à l'automne avec les pruneaux. L'hiver, c'était l'amande poivrée. Et là, on est parti donc pour la gamme été. Alors, c'est une huile à base de noyaux de cerises. Alors, les noyaux,
ça sent tellement bon.
Allez-y, ouvrez-la. Donc, les noyaux sont pressés à froid et ça va donner une huile donc pour le visage. Alors, puisque c'est une huile, je le rappelle, on l'applique plutôt
ça sent vraiment très
le
bon,
soir,
hein.
Ça sent bon. Hein.
Ah ouais.
On l'applique plutôt le soir une huile parce que sinon ça fait un effet gras brillant. Et l'huile de noyau de cerise...
Ça se mange pas, Julien, attention.
C'est super.
Alors, elle est idéale pour les peaux matures, hein, plein de rides.
C'est bien,
comme l'explique Annabelle Zved, la fondatrice de Matière Brute.
Ce noyau de cerise, il est bourré d'antioxydants. Donc ça va aider à lutter contre le vieillissement cutané. Il est aussi bourré d'oméga 6, d'oméga 9. Donc ça participe vraiment à l'élasticité de la peau, la fermeté, à l'éclat par ailleurs, et c'est vraiment des choses qui sont recherchées justement plus on avance en âge. C'est très précieux.
Donc une huile très précieuse, mais aussi anti-gaspillage, puisque pour les produire, il faut récolter les noyaux de cerise considérés encore comme un déchet, et ça fait un paquet puisque chaque année on produit près de 35 000 tonnes de cerises en France, ce qui fait beaucoup de noyaux.
Et moi, mon fruit préféré, Benjamin, c'est la figue. Est-ce que vous avez des produits à base de figue?
Oui, il existe une huile de figue de Barbarie. Alors c'est la marque la Drôme qui récupère les figues de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie. Et il faut savoir que c'est l'une des huiles les plus recherchées et une des plus chères. Il faut une tonne de figues pour faire un kilo d'huile. Alors très bon choix aussi pour vous, Julia, puisque cette huile, on la recommande pour les peaux abîmées.
Regardez, mais moi j'ai mis
nature très ridée et abîmée, c'est vous. Hein,
c'est pour ça, vive la figue. Vive les vieilles femmes.
Ah oui, on dit un visage de vieille figue.
C'est peut-être pour ça. Elle est 4 fois plus hydratante que l'huile d'argan et surtout très riche en vitamine K, un vitamine K reconnu pour son rôle dans la circulation sanguine. Donc si vous souffrez de coupe rose ou si
mais
vous avez
des
cernes très
marquées, regardez là.
Il faut Julia, il faut absolument se mettre de l'huile de figue.
Allez, tartinez-vous de figue, Julia. Moi, je raffole des framboises, Benjamin. On peut les utiliser dans des crèmes ou pas?
Alors non, la framboise, c'est plutôt pour des produits capillaires. Tenez, je vous la fais passer.
C'est pour les cheveux cassants, Mélanie. Et gras.
Mais oui, rajoutez-en.
Vous n'avez pas du tout les cheveux gras en plus. Comme tous les fruits rouges, la framboise, elle est gorgée d'antioxydants. Et ça va, entre guillemets, envelopper le cheveu pour le protéger de la chaleur. Donc j'imagine que vous utilisez, les filles, tous les jours un sèche-cheveux ou un lisseur ou un boucleur, etc. Ça peut aussi protéger des rayons du soleil. Et donc, vous l'appliquez juste avant de vous exposer. Et donc, avec ce spray, donc c'est la marque Les Secrets d'Ili, donc à utiliser toute la journée. Ça sent bon. Et il n'y a pas un effet gras quand on l'applique. Et c'est pour tous les types de cheveux, hein, bouclés, frisés ou crépus.
Bon, est-ce qu'il y a un fruit vraiment tendance cette année dans les cosmétiques?
Alors oui, en 2022, là, c'est l'année de l'abricot. Alors, certaines années, c'était la pastèque. Là, c'est l'abricot. On ne sait pas pourquoi. Mais on retrouve partout. On retrouve partout. Il y a des crèmes solaires à l'abricot chez La Rosée. Il y a des bébés crèmes à l'abricot. Il y a une crème de jour chez Mavala à l'abricot. Et même de l'abricot sous la couette.
Oh,
j'adore.
Et oui, je vous ai trouvé une huile intime, ensuite un lubrifiant, en fait de la marque My Lubi, alors qui était fabriquée à la
Philippine
base.
Philippine, elle a vite tendu la main quand elle a entendu une huile pour la couette.
On ne sait pas si on doit le prendre ou pas le prendre d'ailleurs. Ce petit coup.
Vous essayez sur la main comme ça.
De l'huile de noyau d'abricot. Alors c'est pas pour rien qu'on la retrouve dans ce genre de produit pour les parties intimes. C'est parce qu'en fait cette huile d'abricot, elle a pour effet d'assouplir.
Julia, moi, j'ai pas besoin. Moi non plus.
Elle va assouplir les peaux sèches, Julia. Donc c'est pas une mauvaise idée.
Laissez ça aux jeunes femmes.
À cet endroit, j'ai quand même posé la question pour vous, Julia. Ça ne se mange pas. On peut la lécher, mais pas la manger.
Ah, vous faites bien.
Et puis on déconseille de l'utiliser aussi pour des préservatifs en latex. Donc je pense que c'est plutôt pour les couples. Pas de latex, parce qu'en fait une huile sur du latex, ça va rendre la capote poreuse en fait, et donc elle sera beaucoup moins efficace.
D'accord. Vous avez pas notre fruit?
Oui, là
pour
on
la
en a fait 4, hein, je crois, un petit dernier.
Oui, allez, un petit dernier. On va terminer avec la pêche qu'on trouve dans des gommages. Alors par exemple chez la marque Evoluderm, tenez, je vous la fais passer. Et donc il y a en fait dans la pêche plein de petits acides qui en fait une fois sur la peau, eh bien vont venir décoller comme ça toutes les petites peaux mortes, pardon. Et l'avantage c'est que c'est moins abrasif que des gros gommages avec des gros grains, vous savez, avec du café, etc. Donc là c'est quand même beaucoup plus doux. Donc c'est idéal pour les peaux sensibles, les peaux qui ont tendance à rougir très facilement.
C'est pour vous, Benjamin, donc.
C'est,
hein,
oui, c'est ça. Ouais. C'est pourquoi.
Alors je vous ai aussi trouvé des petits parfums si vous voulez sentir l'été. Il y a des petits parfums à la fraise, à la pastèque, à la cerise.
J'ai l'impression de revenir en enfance.
À mon avis, l'odeur de la pastèque, c'est bien pour vous, je pense.
Et pour vous, Mélanie, ça sera la fraise.
Ah, la fraise. Ouais.
Romain Desart, je peux vous mettre un petit peu de pastèque pour votre émission?
Ça ira, merci.
Trop tard.
Vous préférez sentir la fraise. Qu'est-ce que vous avez préféré, Julien, dans toutes ces senteurs estivales et fruitées?
Moi, c'est la figue. Vous m'avez convaincue avec la figue réparatrice. Et effectivement, c'est très très utile, même pour les pieds. Vous savez, quand on a les pieds un petit peu avec.
Vous en avez des défauts, Julien.
Non, mais le soir, l'été, c'est très bien.
Moi, il n'y a que la tête qui va bien. Pourquoi vous riez, Romain Desart?
Il y a une odeur bizarre dans ce studio.
Non, ça sent le fruit, uniquement le fruit.
C'est parce qu'on a tout mélangé bien. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet éclairage fruitier. Bon, j'espère que vous qui nous écoutez, surtout, vous avez passé une heure agréable et utile en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h. Et quel sera notre sujet du jour, Mélanie?
Alors, si comme 2 Français sur 3, vous vous sentez constamment fatigué en ce moment, ça va vous intéresser. D'ailleurs, connaissez-vous véritablement le syndrome de fatigue chronique? Nous ferons le point sur cette maladie encore méconnue. Nous verrons en détail ses causes. Et surtout, nous vous apporterons des solutions pour en sortir, notamment grâce à l'alimentation.
Alors soyez au rendez-vous, mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme?
Alors on va parler évidemment de l'allocution d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il vous a convaincu, Emmanuel Macron, hier soir à la télé à 20h? Vous nous le dites, vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne évidemment. On sera aussi avec William Martinet qui est député NUPES LFI des Yvelines et avec Caroline Colombier qui est députée RN de la Charente. Voilà le programme.
Eh bien, merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite.